Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance numéro 121 sur RLP avec Stéphane. Famille, justice, enfance, l'émission qui parle de la famille, de la justice et de l'enfance. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de démarrer une série d'émissions avec Frédéric Benahi, travailleur social, chargé de prévention et chef de service dans le cadre de la protection de l'enfance. Nous cherchions un professionnel de l'ASE pour discuter avec lui. Nous en avons trouvé un, et pas n'importe lequel. Frédéric Benahi est auteur pour les éditions Les Trois Colonnes, avec notamment Les Loges du Social, en 2019, ainsi qu'en 2020, Adolescent, entre ennui, épuisement et mise en danger des parents face au temps. Monsieur Benahi a un peu plus de 20 ans d'expérience et nous a très gentiment consacré un peu plus d'une heure et demie d'entretien que nous vous présenterons dans cette émission et les suivantes. Mais tout d'abord, quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
RLP 102.3 avec Alexandre de la marche pour l'égalité parentale des mamans. Bonjour Alexandre, alors qu'est-ce que cette marche? Vous partez d'où, quand, durant combien de temps? Dis-nous tout.
Et bonsoir Stéphane. Eh bien, le collectif donc du coup a pour but de partir de Paris à Strasbourg du 10 novembre au 5 décembre. Voilà, on aura plusieurs points rencontres. On invite un maximum de personnes aussi à participer à la marche à certaines étapes. Il y aura un dossier pour participer pour chacune des personnes qui le souhaitent. Et le but étant de mettre en avant tout ce problème de manque d'égalité parentale en général.
Et vous êtes combien à marcher?
On sera 10, 7 marcheurs et 3 marcheuses.
D'accord.
Pour le moment.
D'accord. Est-ce que vous êtes reçu par quelqu'un ensuite à Strasbourg?
Pour le moment, on garde tout ça entre nous. On travaille dessus en équipe et le but étant d'être reçu, bien évidemment, à Strasbourg. Oui.
D'accord. Et je crois qu'il y a un rendez-vous pour tout le monde, un rendez-vous commun à Paris, début décembre.
Exactement. Tout à fait. Le 5 décembre, donc, on organise une manifestation. Pareil. Le but étant que le maximum de personnes en France puissent s'y réunir le 5 décembre à 10h devant Place Bastille.
Ok. Nous en reparlerons parce que je crois que nous avons prévu une émission étape avec Damien et son équipe. Merci Alexandre, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
À bientôt, merci, au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance. Dans notre pays, 170 000 enfants en danger sont placés par l'aide sociale à l'enfance dans des lieux où ils peuvent grandir en toute sécurité. Mais l'ASE manque de place. Et nous avons découvert une réalité bien plus sombre pour beaucoup de ces enfants. Quand l'ASE ne sait plus où les mettre, elle les place par exemple à l'hôtel. 10 000 mineurs y sont logés dans des conditions indignes. Des ados de 14-15 ans, cloîtrés dans des chambres sordides. Ils y vivent pendant des mois, voire des années.
Donc là, t'es en roue libre dans un hôtel.
Je sors, je prends l'heure que je veux. Mais quand ça va pas, je
peux voir être dans un hôtel, c'est pas ma place.
Face à la détresse de ces gamins cassés, certains éducateurs sont totalement désabusés.
Ça me renvoie des choses pour lesquelles je me suis pas engagé en tant qu'éducateur.
Nous nous sommes aussi fait embaucher dans des foyers où sont placés des ados en roue libre.
Ça va ? Salut la Lamborghini !
Quand tu dis que je vais travailler, il n'a pas l'âge de travailler. À faire quoi ?
Livrés à eux-mêmes, ces garçons se retrouvent mêlés à toutes sortes de trafics.
Je prends un super ou cambriolage, vol de vol sur devant le foyer.
Les filles, elles, qui ont entre 14 et 17 ans, sont des proies pour les proxénètes.
Ma journée est ensemble. Il y a des mecs qui vont venir te chercher, ils vont te mettre dans le tas. On passe dessus pour mes badges.
Il y a une grosse problématique de prostitution.
Et dans ces cas-là, on fait quoi?
Eh bien, pas grand-chose.
Du côté des familles d'accueil, notre enquête montre aussi de graves défaillances. Nous nous sommes fait passer pour un couple souhaitant accueillir des enfants.
Bonjour.
Et sans rien savoir de nous, ce prestataire de l'ASE est prêt à nous confier des enfants sans même contrôler notre identité.
Bonjour. J'ai une maison propre, vous êtes charmants tous les deux.
Comment vous avez 4 places ?
4 places et 4 enfants.
Ouais.
En tout cas, notre profil vous intéresse. Ouais.
8 milliards et demi d'euros sont pourtant dépensés chaque année. Un système opaque où chaque département gère comme il l'entend sa propre protection de l'enfance. Pendant plus d'un an, nous avons pénétré dans ce monde déconcertant qui peine parfois à protéger les enfants et expose certains d'entre eux à de nombreux dangers. Bonsoir à tous. C'est une enquête révoltante que vous allez découvrir. Chaque année, dans notre pays, l'aide sociale à l'enfance place des milliers d'enfants en danger. Il y a 3 ans, nous avions déjà dénoncé de graves dysfonctionnements. Des jeunes livrés à eux-mêmes, déscolarisés, dans des foyers délabrés. La situation s'est-elle améliorée? Nous sommes retournés dans ces foyers et ce que nous avons découvert est toujours aussi inacceptable. Des adolescents qui sombrent dans la délinquance, des jeunes filles qui se prostituent. Pire encore, des milliers d'enfants de l'ASE sont parqués dans des hôtels, parfois insalubres, pendant des mois, et ils sont en grande détresse psychologique. Pourquoi y a-t-il toujours autant de dysfonctionnements? Qui est responsable? Le nouveau scandale des enfants placés, c'est une enquête de Jean-Charles Doria.
Bien, alors, à ma gauche, un système social de protection de l'enfance qui marche extrêmement mal. À ma droite, des tribunaux qui, nous le répétons de manière assez régulière, n'ont ni les moyens ni les capacités de fonctionner correctement. Entre les deux, nous avons des systèmes d'inspection au fonctionnement extrêmement critiquable, et nous en avons déjà parlé. Mais l'intervenant du terrain, le professionnel qui s'est engagé, lui, avec son cœur, son ventre et ses tripes pour essayer de rendre le monde meilleur, lui, comment il le vit, comment ça se passe, qu'est-ce qu'un cadre dirigeant chez l'ASE, comment c'est, voici Monsieur Frédéric Benahi.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Frédéric Benahi. Monsieur Benahi est l'auteur de l'ouvrage « Adolescents entre ennui, épuisement et mise en danger, des parents face au temps » aux éditions Les Trois Colonnes. Monsieur Benahi est travailleur social depuis plus de 25 ans. Il a travaillé au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à divers endroits et s'est spécialisé dans l'étude de l'adolescence et des liens parentaux. Monsieur Benahi, bonjour.
Oui, bonjour, merci de m'inviter dans votre émission.
Merci d'être venu nous voir, c'est très gentil. Ça fait longtemps qu'on voulait avoir un spécialiste de l'aide sociale à l'enfance, un travailleur social qui vienne discuter avec nous, répondre à nos questions. Nous sommes très heureux. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter un petit peu, dire quel est votre parcours, votre travail, qui vous êtes?
Alors, j'ai un parcours assez atypique, puisque j'ai commencé par faire des mathématiques, vous voyez, ce qui est quand même très loin de l'objet de travail de ce jour. Et en même temps, j'étais auprès d'adolescents en difficulté. Donc, j'ai rapidement compris les enjeux de société qu'il pouvait y avoir sur une tranche d'âge, qui m'a amené finalement à me réorienter vers le travail social et à entamer donc une formation de travailleur social. J'ai commencé à exercer à l'aide sociale à l'enfance, donc dans le cadre de mesures de placement pour des enfants confiés généralement par mesure judiciaire. J'ai été ensuite chargé de mission, à savoir développer tout le partenariat sur des territoires et permettre d'avoir une vision un peu plus large, claire et objective des phénomènes émergents concernant l'adolescence, mais aussi la toute petite enfance, donc il ne faudra pas négliger dans notre approche. J'ai par la suite été responsable d'une unité qui fait donc de l'aide éducative en milieu ouvert. Et actuellement, je suis donc cadre dans un service de l'aide sociale à l'enfance où à la fois nous avons le suivi d'enfants confiés par décision judiciaire, d'enfants confiés par leurs parents, mais on a aussi toute la délégation de mission sur les aides à domicile, qu'elles soient administratives ou en milieu ouvert.
Bon, écoutez, on va commencer directement dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est effectivement qu'une AEMO? Expliquez-nous ce mot qu'on entend régulièrement, qui fait peur. On a l'impression, oulala, oulala, il y a une AEMO, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est compliqué pour mon enfant? C'est dangereux? Ça veut dire qu'on va pas bien et autres? Expliquez-nous en fait, qu'est-ce que c'est que cette chose-là?
Alors, je pense que ce qui est important qu'on puisse préciser aux auditeurs, c'est que depuis 2007, en fait, existe ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que le juge est vraiment interpellé en dernier ressort. Donc, il y a une différence fondamentale entre ce qu'on va appeler une mesure administrative, donc on appelle généralement l'AED, l'aide éducative à domicile, qui se fait donc dans un cadre administratif avec l'accord des deux parents, et l'AMO, l'aide éducative en milieu ouvert, qui est une mesure judiciaire prononcée par un juge des enfants. Je me permets d'être être un peu plus précis sur ce point, parce que en fait, dans la réalité, depuis la loi de 2007, l'AMO ne devrait intervenir qu'en dernier recours. C'est-à-dire que les dispositifs de protection de l'enfance sont prévus pour qu'on aille de façon systématique rechercher l'adhésion des parents pour travailler dans un cadre administratif, pouvoir avec eux décliner des objectifs et des projets. Je reste, moi, encore assez interpellé par le nombre de saisines du juge des enfants dans le cadre des mesures en milieu ouvert. Je pense qu'il y a toute une pédagogie, mais on en parlera plus tard, à faire auprès des travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir compter à un moment sur l'intelligence des parents à pouvoir eux-mêmes solliciter une aide dans un cadre qui ne soit pas contraint, contrairement à l'AMO qui a un cadre imposé et souvent qui est mal compris et mal expliqué aux parents. C'est-à-dire que dans l'aide administrative, il y a tout un temps d'explication aux parents sur finalement qu'est-ce que vient faire la puissance publique, hein, puisque c'est toujours la puissance publique. Pourquoi la puissance publique vient faire ingérence dans la famille, hein. C'est quand même toujours une atteinte à la vie privée, et ça, il faut que les parents soient en conscience. Et en fait, on a de meilleurs résultats quand même dans un cadre administratif, puisqu'on part du principe que les deux parents sont d'accord pour accepter une aide, et ce qui peut être une aide effectivement en cas d'une séparation. Le recours au juge des enfants me semble, dans un certain nombre de mesures, un peu abusif, puisqu'en fait, vous avez des parents qui sont relativement coopérants. Et d'ailleurs, le juge des enfants, légalement, doit lui aussi recueillir l'adhésion des parents. C'est-à-dire qu'il est complètement utopique de pouvoir penser le travail éducatif sous une forme uniquement contrainte. Ce n'est pas quelque chose qui donne de bons résultats, puisque vous avez des processus qui se mettent en place où les parents, de fait, hein, vont déclencher des défenses et ne vont pas être dans une forme d'adhésion et dans une forme d'un projet commun qui serait pensé pour l'enfant. Donc ça, c'est une différence importante de préciser, c'est-à-dire que l'AMO doit vraiment arriver en dernier ressort. Et chaque parent doit pouvoir être invité à contractualiser, lui, avec les services de l'aide sociale à l'enfance, une mesure administrative. Une mesure administrative, c'est un contrat où, en fait, les deux parents s'engagent sur des objectifs et ce contrat peut être renouvelé autant de fois que nécessaire et peut aussi être interrompu quand, effectivement, l'aide n'est plus efficiente. Mais donc, en première intention, c'est vraiment l'aide administrative qui doit être considérée comme prioritaire. L'AMO intervient suite à une information préoccupante, généralement, qui a été évaluée par un service tiers qui amène les parents à être confrontés une première fois, généralement à un binôme d'évaluateurs. On est dans une société de l'évaluation, hein. Vous alliez maintenant, vous avez un rappel par Google Maps pour noter tel restaurant, pour noter tel livreur. Et souvent, en fait, la saisine du juge des enfants est liée aussi à une frilosité des travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'on se dit, le juge va sécuriser la procédure, va contraindre les parents à rentrer dans un travail qui ne s'avère pas forcément la réalité. Alors effectivement, une fois qu'on a la justice dans la boucle, ça devient plus compliqué, puisque les parents ont des obligations par rapport à cette mesure. Donc la mesure d'AMO, ça aussi c'est important peut-être de le rappeler à vos auditeurs, ne touche en aucun cas l'autorité parentale. C'est-à-dire que les parents gardent tous les attributs de l'autorité parentale et gardent donc toutes les décisions par rapport à l'enfant. L'AMO est un dispositif d'accompagnement éducatif, mais absolument pas un dispositif qui vient toucher à l'intégrité de l'autorité parentale. Et par contre, effectivement, ça demande une disponibilité à des rendez-vous, tant pour le père que la mère, que pour l'enfant. Et en fin de mesure, un rapport est soumis au magistrat pour évaluer s'il y a une reconduction de l'AMO, voire une mesure plus contraignante avec effectivement une possibilité de placement ou une mainlevée, c'est-à-dire qu'on arrête le suivi éducatif.
RLP. Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Frédéric Benahi, donc Frédéric Benahi sur RLP, qui vient de nous expliquer ce que c'était qu'une AED, une AEMO, et qui, si j'ai bien compris, estime que l'on va parfois saisir le juge un peu trop facilement, un peu trop rapidement, au lieu de travailler en bon entendement, si j'ai bien fonctionné dans mon écoute.
Tout à fait, oui, je pense qu'effectivement, on est dans une société qui est assez frileuse, hein, avec un principe de précaution très fort, et on oublie souvent les ressources parentales. Hein,
et peut-être aussi une vision idéalisée de votre environnement, c'est-à-dire qu'on peut avoir par expérience, hein, pour avoir vu passer un certain nombre de dossiers. On va avoir des services d'enquête qui vont être très frileux, qui vont recommander des mesures tout de suite. On va alimenter les points rencontres, on va alimenter les AEMO, et c'est-à-dire que l'AEMO va se réduire à, le plus souvent, un entretien avec chaque parent et l'enfant par mois pour voir si tout va bien. C'est-à-dire que la baguette magique, miraculeuse, n'existe pas. Bon, ce que je viens de dire, ça évoque quelque chose chez vous ou c'est que chez nous ?
Alors non, tout à fait. On a actuellement, on est dans un contexte de tension, hein, comme tous les métiers d'ailleurs liés à la santé, au médico-social. Effectivement, il y a moins de publicité autour de la pénurie actuelle de travailleurs sociaux, mais aussi... il faut savoir que c'est des mesures chères au département. La protection de l'enfant, c'est quand même un poste budgétaire extrêmement important, généralement derrière le revenu de la solidarité active. Et on se retrouve effectivement avec des services qui sont démunis et à qui on demande des choses qui parfois peuvent paraître complètement impossibles, c'est-à-dire d'évaluer effectivement avec un rendez-vous par mois le devenir d'un enfant et de poser une évaluation qui, à mon sens, n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire connaissance avec une famille, en tout ce qu'elle peut amener de son histoire et de sa relation à son enfant, avec des rendez-vous aussi éloignés. C'est-à-dire qu'on s'est un peu éloigné de l'origine qui était quand même liée à la notion de guidance parentale. C'est-à-dire, voilà, vous rencontrez des difficultés, comment nous, avec la technicité particulière qu'on peut avoir, on peut vous accompagner dans ces difficultés pour vous permettre effectivement de trouver des ressources qui vous soient propres, sans toucher forcément à la conception que vous avez, vous, de votre rôle de parent. Voilà. On est un peu sorti de ça et on est effectivement sur, en plus, des délais d'attente qui sont catastrophiques. Il y a des départements où on est à un an d'attente, c'est-à-dire que la première mesure est ordonnée. Un an plus tard, le juge reçoit à nouveau, la mesure n'a pas débuté. Donc, ce qui laisse quand même les parents dans une insécurité extrêmement forte et qui vient laisser tout ce qu'il peut y avoir conflictuel en l'état, voire le raviver. Donc, je vous rejoins complètement sur le fait qu'actuellement, en tout cas, il y a une pénurie, comme on n'est pas suffisamment efficient dans ce type de mesures.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Bon, alors... On va rebondir sur l'enfant, la souffrance chez l'enfant. C'est un point qu'on avait évoqué dans notre préparation, là, on l'avait noté. Quels sont les critères d'identification de la souffrance chez l'enfant? Quelles limites dans l'association de l'enfant à la décision des adultes? Donc on comprend bien qu'une AEMO, un juge des enfants, arrive, dit il y a un problème, une information préoccupante a été faite, on va définir ce cadre-là éventuellement. Deux personnes sont venues en regarder, on dit oh là là, peut-être qu'on va envoyer un pro parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer, quelqu'un finit. Finalement, par arriver, et là-dedans, l'enfant. Comment on associe l'enfant? Que fait-on avec l'enfant? Comment on l'observe? Quels sont les signes?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant nous parle tout le temps. C'est-à-dire que du bébé jusqu'à l'adolescent, chez les bébés, c'est assez impressionnant quand vous avez notamment des bébés qui s'endorment en entretien. C'est-à-dire qu'ils tout d'un coup s'appellent. C'est-à-dire que la parole de l'adulte qui est dit vient tout d'un coup les réconforter. Ça, vous pouvez avoir des bébés qui passent d'une très forte agitation à quelque chose de beaucoup plus apaisé, qui comprennent le sens de la démarche. Alors, quand on parle de critère d'identification de la souffrance chez l'enfant, on a eu moult tentatives de guide avec des points très précis qui devraient identifier, détailler. Donc là, je parle bien évidemment pas des situations de maltraitance avérées. Je parle pas d'enfants qui viendraient avec des choses qu'on puisse constater, des hématomes, des choses comme ça. Donc, il y a des moult guides qui ont été produits. En fait, si on reste assez simple, sans être simpliste, un enfant, c'est comme un adulte. C'est-à-dire que les enfants, quand ils nous parlent, c'est-à-dire qu'il va falloir analyser dans ce qui se passe dans la vie du quotidien, qui vient faire rupture. C'est-à-dire quand vous avez un enfant qui était plutôt joyeux, décrit comme joyeux à l'école, qui avait plutôt tendance à aller s'amuser avec les copains, quand on le voit tout d'un coup prendre une position de repli, c'est comme chez l'adulte, c'est-à-dire que la dépression n'arrive pas d'un coup, c'est pas un stress, on est déprimé, c'est que tout d'un coup, il y a des mécanismes de défense chez l'enfant qui se mettent en place, et en fait, il faut être très sensible à ces phénomènes de rupture pour identifier la souffrance. Il y a des enfants qui, effectivement, font des manifestations assez conséquentes, des enfants qui se remettent à faire pipi au lit, qui viennent nous montrer qu'il y a un dérèglement qui se met en place, et puis il y a des fois, en fait, c'est beaucoup plus sournois, c'est-à-dire que vous avez l'enfant qui s'absente. l'enfant qui ne participe plus, qui n'est plus en lien avec les autres, qui n'est plus en lien avec ses parents, qui décide de s'extraire finalement du conflit parental. Et actuellement, notre société a souvent recours à des objets type tablette, etc., pour faciliter cette extraction. Donc, moi, je suis très sensible à ce que les travailleurs sociaux puissent accompagner les parents dans l'identification de ces modifications du comportement quotidien. C'est-à-dire qu'un enfant qui va proposer une opposition massive, la question, c'est pas il pose une opposition massive, la question, c'est depuis combien de temps ? C'est-à-dire que est-ce qu'effectivement les symptômes ou les éléments qu'on voit sont liés à la séparation ? Est-ce que finalement ils sont antérieurs ? On a tendance un peu à tout mélanger. C'est-à-dire que vous avez par exemple des enfants qui vont avoir des problèmes d'orthophonie, ça arrive. Est-ce que ce problème-là est antérieur à la difficulté du couple ? Ou est-ce que c'est un problème qui va être réactionnel ? C'est-à-dire qu'il faut vraiment, tout l'enjeu de la protection de l'enfance, c'est de sortir de ces espèces de guides, de ces espèces de schémas de pensée un peu dogmatiques, pour retourner à quelque chose de beaucoup plus bienveillant et pouvoir expliquer aussi aux parents pourquoi l'enfant propose ce type de réaction. Parce que le parent, dans 90% des cas, a les ressources pour travailler avec l'enfant sur cette question-là. C'est-à-dire que effectivement, un enfant qui va demander en permanence la tablette pour s'extraire ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut retravailler de façon très tranquille avec l'enfant une fois que le parent a compris pourquoi l'enfant proposait ce type de réaction. Le pipi au lit est assez symptomatique, c'est-à-dire que en fait, le parent comprend que l'enfant, à ce moment-là, ne maîtrise plus ses sphincters parce que l'angoisse est telle qui n'est pas en capacité de le faire pendant la nuit, vous avez des parents qui vont changer d'attitude, c'est-à-dire qu'ils vont rebasculer dans l'histoire du soir, dans un couchage plus apaisé, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner le couchage. Si effectivement on part du principe que le fait que l'enfant se fasse pipi au lit, c'est un signe et qu'il faut absolument traiter le signe et que ça indique que le parent n'est pas un bon parent, je pense qu'on fait une erreur manifeste.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Frédéric Benahi sur RLP. Frédéric Benahi, travailleur social, qui nous parle aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance, des mesures éducatives. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'autorité parentale. L'autorité parentale comme support de la protection de l'enfance, mais aussi la recherche des figures d'attachement de l'enfant. Alors, c'est intéressant parce que nous avons, nous ici, avec nos invités, et le vécu génétique, en fait, qui a amené à la mise en place de cette émission, nous avons l'impression que les liens parentaux, l'autorité parentale est très critiquée, très attaquée en Occident, et notamment en Europe de l'Ouest, en associant le Québec et les USA. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme spécialiste? Y a-t-il trop d'ingérence extérieure ? Est-ce que vraiment l'autorité parentale se délègue de plus en plus à l'État ? On voit que la loi 15 au Québec, par exemple, remet en cause la primauté biologique. Est-ce que vous sentez une tendance dans votre travail dans cette direction-là ?
Alors, on a effectivement ce mouvement qui est à l'œuvre actuellement, notamment pour... on reste sur les mêmes thématiques, c'est-à-dire des compétences parentales. C'est-à-dire qu'on vient... de façon assez abrupte parfois, expliquer à des parents que ce sont de mauvais parents parce qu'ils ne font pas bien telle chose et telle chose. Je pense que la première erreur qu'on fait aussi, et c'est moi j'insiste beaucoup avec des personnes que j'encadre, c'est d'expliquer ce qu'est l'autorité parentale. C'est-à-dire que l'autorité parentale, c'est un mot qui est abstrait. L'autorité parentale, c'est quelque chose qui a été pensé, qui est relativement récent dans notre histoire, puisque les années 70, on était encore sur la puissance paternelle. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'est un ensemble de droits et de devoirs, mais c'est aussi un ensemble de droits. Et effectivement, la puissance publique n'est pas là pour faire ingérence et pour donner une ligne de conduite qui serait absolument celle qu'il faudrait suivre. Et je pense qu'il y a un véritable problème, c'est-à-dire qu'on n'explique pas aux parents tout simplement ce qu'est être parent par la loi. Donc il y a plusieurs façons d'être parent, Isel développe très bien ça, mais il y a aussi une façon légale d'être parent qui renvoie à la fois à la santé, à la fois à la scolarité, à la fois à ce qu'on va appeler les bonnes mœurs. Mais tout ça, si vous voulez, surtout pour des gens qui vont être fragilisés, soit par une histoire personnelle, soit au moment de la séparation, soit par des non-dits familiaux, fait que cette autorité parentale, elle est moins bien comprise. Et je pense qu'il y aurait besoin systématiquement, et en tout cas moi je m'y attache, c'est-à-dire de rappeler aux parents, et notamment dans la MO et l'AED, qu'ils restent les titulaires exclusifs de l'autorité parentale. Qu'on va décaler des figures d'attachement. C'est-à-dire qu'au fond d'un enfant, et ça la loi de 2022 le redit de façon très claire, il est nécessaire aussi de comprendre quelles sont les figures d'attachement de l'enfant. C'est des choses qu'on va retrouver dans les familles recomposées, qu'on va retrouver aussi quelle est la place des grands-parents. Ça mériterait une émission, je pense. Et donc, ces deux choses-là. C'est-à-dire que le parent, il faut lui expliquer qu'il est parent, et il est parent jusqu'aux 18 ans de son enfant, ou émancipation, s'il est émancipation. Mais en tout cas, le travail est de conforter l'autorité parentale, tout simplement pour lui permettre de s'exprimer. Après, on peut toujours faire le constat, effectivement, qu'il y a des difficultés dans l'exercice des droits et des devoirs. On retrouve ça beaucoup dans le débat actuel autour de ce qu'on appelle le devoir de surveillance, avec effectivement ces ados qui sont tardivement à l'extérieur du domicile. Encore faut-il qu'on ait expliqué à ses parents que dans les attributs d'autorité parentale, ils étaient amenés à devoir surveiller leur enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser de règle tant qu'on ne connaît pas la règle. Donc pour moi, de toute façon, l'autorité parentale, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'un enfant, la filiation est établie et on part de la filiation de façon systématique. Parce que sinon, on le paye très cher à l'adolescent. C'est-à-dire que moi, le constat que je fais en tant que professionnel, c'est que à chaque fois qu'il y a une difficulté sur l'autorité parentale, qui la détient, une des reconnaissances qui sont pas les bonnes, on va avoir, au moment de l'adolescence, des mouvements de mise en danger, des mouvements où les enfants vont pas aller bien. Donc, en fait, c'est le premier travail que doit faire un service de protection de l'enfance, c'est réaffirmer et interpeller l'autorité parentale. C'est-à-dire, je développe mon propos, il faut s'autoriser à aller chercher les pères. C'est-à-dire, ils en font qui veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement, à un moment, dire, écoutez, non, moi, je m'engage pas dans ce travail avec vous. Moi, j'ai été souvent dans ma carrière effaré par le nombre de mesures où les pères ne sont même pas convoqués. C'est-à-dire que les pères apprennent par le service, dans un temps relativement long, qu'il y a des choses qui se passent pour leur enfant. De mon point de vue, c'est inadmissible d'un point de vue légal, mais c'est aussi inadmissible parce que tout de suite, on fait de façon inconsciente une forme de délégation de l'autorité parentale chez pour l'autre parent, et l'enfant ne peut pas s'y retrouver. C'est-à-dire que quand la puissance publique convoque des parents, elle doit se donner les moyens de convoquer les deux parents. Charge à eux de se saisir ou pas de ça. Moi, j'ai vu trop de rapports avec les filiations non établies, avec, en fait, on est beaucoup dans un discours déclaratif. Alors, par exemple, une pratique, c'est que je demande systématiquement les actes de naissance actualisés avec les notions marginales. Ça paraît rien, mais on fait des sacrées découvertes. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, on retrouve des pères qui, effectivement, ne sont pas informés des décisions, ne sont pas informés des décisions de justice, XY raison, parce que résident à l'étranger, parce que pas présent au moment où l'information de protection a été faite.
Parce que l'éducation nationale privilégie l'un des deux parents systématiquement, on va le dire aussi, ça arrive très communément.
Oui, ça je l'ai même vécu moi à titre personnel, où effectivement il faut systématiquement rappeler aux administrations de façon générale qu'on existe en tant que père,